Ce matin, nous allons continuer notre exposé du livre de Josué. Nous sommes dans Josué 7 et le titre du message, c'est « Le péché exposé ». Donc, Josué 7, nous lirons les passages 10 à 26. Josué 7, 10 à 26. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront leur dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par tribu, et il arrivera que la tribu de l'Éternel, que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan, et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel. Il a commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéard d'une rare beauté, ainsi que 200 sicles d'argent, et un lingot d'or pesant à lui seul 50 sicles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessus. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessus. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Combien tu nous as rendus exécrables. L'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Tout Israël lui jeta des pierres. On les brûla et on les lapida. On dressa sur lui un grand tas de pierres toujours existants. Et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de Vallée d'Akor. Alors, le verset sur lequel on va mettre l'emphase aujourd'hui, c'est le verset 19. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » On va prier. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons un grand besoin de toi, Seigneur. Nous avons un grand besoin de te connaître davantage, Seigneur, et nous te prions ce matin de venir nous visiter, Seigneur, par ton Esprit Saint, de venir nous éclairer notre homme intérieur, Seigneur, notre esprit, notre pensée, Seigneur, sur ces propos que nous venons de lire. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous aider, Seigneur, à bien saisir et bien comprendre le message, Seigneur, que tu veux nous dire ce matin. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous vous rappellerez peut-être la dernière fois que nous avons ouvert dans Josué, eh bien, que les choses ont mal tourné. Il y a eu un revers de fortune d'une victoire étonnante à une défaite humiliante. Dans Josué 6, vous vous souviendrez, nous avons vu un des événements les plus mémorables dans l'histoire de la rédemption, à cet endroit appelé Jéricho. Jéricho était de loin la plus grande forteresse dans tout le pays de Canaan. Cependant, les murs se sont écroulés. Josué 6 concerne une victoire douce, une conquête décisive. Certainement, la plupart des gens d'Israël s'attendaient à quelque chose de semblable lorsqu'ils en viendraient à conquérir ces cités et à exterminer leurs ennemis. Cependant, Josué 7 nous laisse voir une histoire complètement différente. La joie de la douce victoire a été remplacée par la douleur d'une défaite amère à l'endroit appelé Haï. Et ce qui fait que cela est plus difficile à comprendre est le fait que la cité d'Haï était de taille beaucoup plus petite que Jéricho. Jéricho était en quelque sorte un peu comme en boxe, un boxeur poids lourd, tandis que Haï était en quelque sorte un boxeur poids plume. Cependant, lorsque les Israélites ont sauté dans le ring et combattu Jéricho, ils s'en sont sortis sans aucune égratignure, sans œil au beurre noir. Mais lorsqu'ils se sont mesurés avec Haï, ils ont frappé un mur et ont été mis KO au tapis. Comment est-ce que cela se fait-il? Haï semblait être un endroit facile à conquérir. Sur papier, cela regardait comme étant une victoire assurée. Mais après les faits ici, 36 soldats sont morts, nous dit l'histoire de la défaite. Josué, le commandant en charge, est perplexe, confus, peut-être plus que quiconque. Nous y voyons un sens ici. Lorsque nous lisions au chapitre 7 de Josué, le verset 6, qui fixe en quelque sorte Josué sur la caméra. C'est un peu comme si on prenait un snapshot de Josué, Tlaup, il nous a dit « Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. » Sa foi a quelque peu été ébranlée. Il a été démoralisé et il semble, si nous continuons à lire, se questionner sur presque tout. Donc ce matin, nous revenons sur le récit de Josué 7 et on va essayer de mettre en place les pièces du puzzle ensemble. Donc il y a trois pièces majeures du puzzle qui donnent de la clarté sur la défaite d'Haï. Donc ces trois pièces, ces trois morceaux. Le premier, c'est le terrible problème de l'iniquité. Le deuxième, l'enquête, l'investigation complète et la découverte. Et le troisième, la censure et la pénalité sévère. Donc, premier morceau, c'est le terrible problème de l'iniquité. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer. Et certainement, en tant que chrétien, nous pourrions dire qu'il y a un temps pour prier. Mais n'y a-t-il pas un temps pour ne pas prier? Oh oui, peut-être quelquefois. Quelquefois, la prière peut être un empêchement, un obstacle. Quelquefois, la prière peut favoriser encourager la passivité ou une attitude de ne rien faire. Quelquefois, la prière peut masquer une mauvaise volonté, une répugnance à vouloir régler les problèmes. Quelquefois, la prière peut nous permettre de se plonger dans l'apitoiement de soi et nourrir notre découragement et être un co-conspirateur avec la dépression ou le désespoir. Josué, ici, avait le droit et était en droit d'épandre son fardeau sur le Seigneur. Il apparaît cependant qu'il ait traversé la ligne. Jean Calvin dit « Josué était coupable de chagrin excessif. » Lorsque nous écoutons Josué, il apparaît vraiment qu'il y ait un brin d'amertume sur ses paroles. Il semble blâmer Dieu pour la défaite. Si nous voyons dans Josué 7, au verset 7, il nous est dit, « Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre, si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie? » Est-ce que cela ne semble pas être le langage, un langage qu'on a déjà entendu? Le langage de la génération du désert. Beaucoup de plaintes, de gémissements, d'apitoiements sur soi. Nous entendons cela dans Exode 14, 16, dans Nombre 11, Nombre 13. C'est un rappel, n'est-ce pas, frères et sœurs, que le meilleur des hommes a des pieds d'argile. Les paroles du psaume 73 ont peut-être une application ici qui nous dit, le psaume 73 nous dit, « Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. » Josué pouvait aussi dire cela ici. Il apparaît à en venir à craindre une sorte d'état désespéré et même d'incrédulité. Josué nous rappelle concernant les disciples, lorsqu'ils se sont trouvés dans cette tempête sur la mer de Galilée, vous vous rappellerez certainement, après que lorsque Jésus a calmé la tempête, il a posé la question, « Où est votre foi? » Dieu aurait pu poser à Josué la même question. « Où est ta foi, Josué? » Cela ne nous en prend pas beaucoup, n'est-ce pas, pour questionner Dieu sur sa bonté. Lorsque nous nous trouvons dans l'épreuve, dans une situation que nous ne comprenons pas, que nous ne contrôlons pas, il n'est pas étonnant que Dieu parle vigoureusement ici à Josué, au verset 10. Il dit, « L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. » Ensuite vient cette révélation affreuse, choquant, un choc, qui explique tout au verset 11. Israël a péché. Le voici, noir sur blanc. Le problème est un problème de péché. Remarquez que toute la nation ici est accusée. Israël, alors ça englobe une corporation, quelque chose de global. Israël a péché. Nous savons, n'est-ce pas, de Josué 7, 1, il nous a donné l'information de première main. Nous savons qui est le fauteur avant que Josué ne le sache. Alors, on a un avant-goût du scénario. On a eu le scénario de la pièce avant que Josué l'ait eu. Mais ici, toute la nation est coupable. Pour faire sentir le poids de leur péché, nous avons ici ce qui suit peut-être l'une des descriptions la plus complète du péché que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Soyons attentifs parce que nous vivons dans une culture, dans une société, un environnement qui tente vraiment de minimiser et à banaliser le péché dès que l'occasion se présente. Et vous avez certainement eu l'occasion de voir cela dans vos conversations, dans vos contacts. Quelqu'un a dit « Le péché vit dans un costume et nous ne reconnaissons pas toujours le péché » pour ce qu'il est, n'est-ce pas? un puritain a dit du péché, il se peint aux couleurs appropriées. Un peu comme le caméléon. Il se moule dans l'environnement dans lequel il est. Regardez comment le péché est décrit ici au verset 11. Dieu le dépeint en utilisant 6 mots différents. L'avertissement est pour nous, le péché est laid. Y a-t-il plus laid, plus terrible, plus injurieux que le péché? Ces 6 mots nous donnent un triste récit dans le sens qu'ils nous disent à chacun, à vous aussi bien qu'à moi, notre histoire. Le premier mot, péché qui signifie littéralement manquer le but. Le mot péché, ça signifie manquer le but, manquer le bullseye. Le péché ne nous permet pas de vivre de la manière que Dieu veut que l'on vive. Le deuxième mot, c'est transgression, c'est enfreint l'alliance, fait référence à la rébellion, nous fait voir l'audacité du péché. Il signifie que nous avons essayé de remplacer Dieu et de faire de nous-mêmes le centre de l'univers, « me, myself and I ». Le troisième, ils ont pris une part de l'interdit. Le péché est une violation claire d'un commandement explicite que Dieu leur avait donné en Josué 6, 18. Si on regarde en Josué 6, 18, « Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous interdit en y jetant le trouble. » Donc, Dieu leur avait donné un commandement explicite en regard à ces choses consacrées. Ce n'est pas un cas d'ignorance. La personne qui l'a fait sait ce qu'elle a fait. Les deux suivants, les quatrième et cinquième, sont des mots qui définissent le péché par le fait de la sainte loi de Dieu. Ils ont volé, ils ont menti. Il y a violation ici du huitième et du neuvième commandement. La loi de Dieu a été bafouée, a été piétinée. Le sixième, le prochain portrait nous laisse voir qu'il y a eu dissimulation subséquente, tromperie. Ils ont mis les choses consacrées dans leur bagage. Cela souligne l'égoïsme ici et comprend aussi l'élément de souillure et de pollution. Alors, il y a une connotation de souillure et de pollution. La description de Dieu du péché ici ne nous laisse pas de doute à savoir combien laid est le péché, n'est-ce pas? Si vous avez déjà regardé ces séries télévisées, il y en a multitude, concernant le crime ou l'équipe de détectives ou les spécialistes qui font l'investigation sur la scène de crime. Alors, on les voit arriver avec leurs valises, leurs caméras, tout leur attirail sur la scène de crime pour essayer de déterminer, retirer des indices. Ils utilisent la caméra et rassemblent les évidences médico-légales. Et une fois qu'ils ont tout rassemblé, ils sont en mesure de déterminer quelle arme a été utilisée pour le crime, quelle a été la violence du crime et toutes les choses-là pour vraiment avoir l'histoire de la scène. Ici, nous avons 6 portraits. 6, on pourrait dire des snapshots en anglais, il y a le mot snapshot, du péché pour nous laisser voir et laisser savoir à Josué et aux anciens et au peuple concernant le crime et combien horrible, horrifiant cela est. Pour ajouter au sérieux de l'affaire ici, Dieu menace de se retirer. Au verset 7, 12b, il nous est dit, « Je ne continuerai pas à être avec vous. » Certainement que cela doit avoir fait frémir Josué, ne pensez-vous pas? Josué avait vécu sur la promesse de la présence de Dieu. C'était son principal soutien. Vous vous rappellerez au début de Josué 1, ce sur quoi Dieu a mis l'emphase plus que toute autre chose envers Josué. « Je serai avec toi, Josué. » Dans Josué 1, 5, Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est réellement ce que nous pourrions appeler le fondement solide, la base sur laquelle Josué se tenait, la présence de Dieu. Emmanuel, Dieu est avec moi. Et Dieu dit ici, si vous ne réglez pas ce problème du péché, je ne serai pas avec vous, Josué. Ce serait un désastre, n'est-ce pas, de continuer d'avancer. Ils n'ont aucune chance si Dieu les abandonne. Est-ce que ceci était une menace en l'air? Je ne pense pas. Dieu ne peut tourner le dos à son peuple. N'était-ce pas une des grandes craintes, des grandes peurs de David? Lorsque David a péché contre Dieu, écoutons le langage du psaume 51, verset 11. C'est David qui dit, « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Est-ce que David ne sait pas quelque chose concernant cela, à tout le moins à un niveau? Il pouvait certainement jouir de la présence de Dieu. Les anciens écrivains, particulièrement les puritains, ont parlé de l'abandon divin. Dieu, en quelque sorte, nous quitte dans le sens que nous n'avons pas la sensation de sa présence. Et certainement, David, durant toute la période d'impénitence et de dérapage, il dit d'ailleurs dans le psaume 32, 4, « Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. » Et si David ne s'était pas humilié lui-même par une vraie repentance, il aurait sombré, n'est-ce pas, dans le bourbier du péché et n'aurait jamais vu la lumière de Dieu. Heureusement, Dieu a ramené David à ses sens. Josué a assez de sens pour savoir que le problème de péché doit être traité. Il ne peut être ignoré. Je ne peux pas le balayer sous le tapis. Si je fais cela, nous pourrions aussi bien commencer à creuser notre propre tombe. Ils ont déjà senti quelque chose, n'est-ce pas, de la répercussion tragique. 36 hommes sont morts et ils se retrouveront eux-mêmes dans une situation bien plus précaire. Dieu pourrait apporter le pire jugement sur eux, tourner son dos de son peuple et permettre que la laideur du péché suivre son cours. Il fait cela, n'est-ce pas, dans son jugement, si nous lisons Romains 1. Mais ici, vous avez le terrible problème de l'iniquité. Considérons maintenant l'enquête, l'investigation complète et la découverte. Dans les versets 13 à 18, vous avez quelque chose qui s'apparente à une enquête criminelle. Ce n'est pas une enquête criminelle typique. Notez comment elle débute avec une emphase sur la sainteté. C'est le grand souci de Dieu au verset 13. « Lève-toi, sanctifie le peuple. » Le regard, le souci de Dieu est concernant la sainteté. Et Dieu est très actif ici et très impliqué dans tout le processus. Il est intimement impliqué dans la vie de son peuple. Et quelquefois, lorsque nous péchons, et particulièrement lorsque nos péchés sont ces péchés d'ignorance ou nos péchés sont consistants avec notre propre faiblesse, nos infirmités, Dieu vient, pouvons-nous dire, avec une voix douce, un son doux. Et n'est-ce pas, c'est ce qu'il a fait avec Élie. Vous vous rappellerez, Élie, lorsqu'il dit, il n'était pas dans le tremblement de terre. Élie disait, il nous est dit dans le passage que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu non plus. Il était dans ce son doux, cette voix douce. Il nous est rapporté cela dans 1 Roi 19-12. Quelquefois, Dieu fait cela. Mais il y a d'autres temps où Dieu fait ce que nous pourrions appeler une intrusion rude. Il défonce la porte. Il lance l'alarme de feu. Il ferme la lumière et c'est ce qu'il fait ici. Il leur laisse encore savoir qu'il est un Dieu saint qui ne tolère pas le péché. Sa sainteté réagit contre le péché de façon très intense. Dieu devient en colère. Et réellement, c'est le thème du chapitre 7. C'est la grande emphase ici dans ce chapitre concernant la colère de Dieu. Et vous pouvez le noter dès le début du chapitre 7, au verset 1b, lorsqu'il nous est rappelé, « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. » Le chapitre 7, verset 26, termine par nous dire que l'Éternel revint de son ardente colère. Vous ne pouvez comprendre Josué 7 à moins que vous ne croyiez en la colère de Dieu, que vous ne preniez en considération la colère de Dieu, que Dieu se met en colère contre le péché. Josué 7 met en évidence la colère de Dieu. Mais nous devrions savoir autre chose concernant Josué 7. Cela ne semble peut-être pas évident, mais nous y voyons aussi ici la miséricorde de Dieu. Mais vous allez me dire, où ça? Pensez-y bien. Ce que nous avons ici est tout un protocole élaboré, n'est-ce pas, pour trouver l'homme, le méchant, le coupable. C'est tout un processus d'étape en étape. Dieu aurait pu simplement dire à Josué, « Va me chercher cet homme nommé Achan. » Cela aurait été facile et expéditif et toute l'affaire aurait été réglée. Ça n'aurait pas pris beaucoup de temps et tout le problème aurait été réglé. Dieu aurait pu l'identifier très clairement et avec la vitesse de l'éclair, mais il ne l'a pas fait ainsi. Il y a ce processus ici. Il est donné à Achan d'abondantes opportunités de se repentir. Il y a miséricorde dans tout cela. Il a du temps pour penser à tout ce processus d'élimination. Certains pensent à la façon dont cela a été opéré, au jeter le sort. Nous voyons cela dans d'autres endroits dans la Bible, au verset 14. « Vous vous approcherez au matin par tribu, et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan. » Nous savons par ce qui nous est dit dans Proverbe 16, 33. Il nous est dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » C'est l'Éternel qui est en contrôle dans toute situation. Sans aucun doute, cela fait que le peuple fut impressionné et qu'ils furent très conscients que le Dieu qui voit tout est derrière cela. Dieu va utiliser son omniscience pour prendre le criminel. Cela a dû être une affaire minutieuse, très difficile. Pensons à Achan, comment il a pu se sentir lorsqu'il a entendu la nouvelle répandue dans le camp que quelqu'un a volé les choses de l'interdit. Il doit avoir senti le poids de la culpabilité et ensuite l'annonce du fait de l'étendue des procédures, de toute l'envergure que cela a pris. Tout Israël sera sous enquête. Peut-être que cette nuit-là n'a-t-il même pas bien dormi, ressassant tout cela, terrorisé d'être découvert. Ensuite, l'enquête commence. En premier, la tribu de Juda est choisie. Se peut-il que cela ait ajouté au niveau d'anxiété? Des remords dans sa conscience. Ensuite, son clan. Alors, ça s'en va tout le temps en ratissant. Comme un peu dans l'entonnoir. L'entonnoir, c'est grand de même. Après ça, ça fait comme ça de même. Ensuite, sa famille. Certainement que tous ces gens étaient quelque peu inconfortables, ne pensez-vous pas? Chaque membre de sa famille est choisi. Père, mère, frère, sœur. Le nœud se resserre de plus en plus. Le système de magistrature se rapproche de plus en plus. Si un moniteur cardiaque aurait pu être installé sur Akan à ce point-ci, il aurait certainement détecté, démontré de la culpabilité, de la peur, de la nervosité à tout le moins. Le point est que l'homme en question a eu l'opportunité de se repentir. Et on peut voir cela, on peut un peu se l'imaginer. La nouvelle se répand dans le camp, alors certainement qu'il il voit ça, puis là, il voit un peu que le processus est enclenché, on fait venir les gens par clan, ensuite par tribu, par clan, par famille. Là, ça commence à... les soupçons commencent à être un petit peu plus serrés. Alors, ça devait être assez énervant, merci. Donc, le point est que l'homme en question a eu l'opportunité de se repentir. Certainement qu'il a eu le temps de réfléchir à tout cela. Il aurait pu arrêter le processus en s'avançant et en prenant la pleine responsabilité. Je l'ai fait, je suis le coupable, mais pas un mot. Il a maintenu son silence coupable, obstiné. Peut-être était-il décidé à penser qu'il s'en sortirait. Peut-être c'est la façon qu'il pensait. « Oh, je vais réussir à m'en sortir. » Est-ce que lorsque Josué le regarda droit dans les yeux et lui dise, et ce n'est que lorsque Josué le regarda droit dans les yeux et lui dise au verset 19, de manière très douce, et on le voit de par l'attitude de Josué, de par le terme « mon fils », et en disant ça, ça donne une connotation de plaider. « Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. » « Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan, à ce point-ci, cesse de jouer le jeu du cache-cache. Au verset 20, « Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. » Il est très spécifique et dit exactement ce qu'il a volé. Le manteau de Shinéar, les 200 cycles d'argent, le lingot d'or pesant lui seul 50 cycles. Il y va même au cœur de toute l'affaire qui est la convoitise. Il dit, j'en ai eu envie et je les ai pris. Tout cela semble bien, n'est-ce pas? Mais cela n'était pas réel, authentique. Je crains que cela ne l'était pas. Il a entendu trop longtemps. De beaux mots, mais dit avec un cœur vide, insensible. Le problème de l'iniquité, l'enquête et l'investigation complète et la découverte, ce qui nous amène à notre troisième morceau, la censure et la pénalité sévère. Le moment dramatique était l'exposition d'Akan. Il a été attrapé. Il est coupable. Ses empreintes ont été prises, il a été emprisonné et maintenant il devra payer. Il y a un prix à payer pour son péché. Josué a agi activement en envoyant chercher les effets dans la tente d'Akan. Nous est dit au verset 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Le récit se précipite à ce point-ci, les événements déboulent. Et ensuite, Akan et sa famille sont amenés à l'avant-scène dans la vallée d'Akor, au verset 24. Josué fait cela en public. Et au verset 25, il nous est dit, « Combien tu nous as rendus exécrables! L'Éternel te rend exécrable en ce jour. Tout d'Israël lui jeta des pierres, on les brûla et on les lapida. Pas de miséricorde, une justice non diluée. Il a eu ce qu'il méritait. Toute sa famille est amenée en jugement et condamnée à la mort. Ils les ont brûlés, non seulement à Caen, et ils les ont lapidés. Pourquoi étaient-ils des complices? C'est une possibilité. Ont-ils aidé à Caen à couvrir son péché? C'est possible. Était-ce un péché familial? Peut-être, peut-être pas. Peut-être était-ce le cas du principe de solidarité? À cause du péché d'un seul, plusieurs souffrent. Le fait est que nous ne péchons jamais de façon isolée. Il y a un sens dans lequel aucun péché n'est individualiste ou privé. Nous aimons penser ainsi, mais ce n'est pas ainsi. Votre péché personnel affectera quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre. Le péché est contagieux et un petit peu de levain fait lever toute la pâte. De plus, le péché peut être générationnel ou passe de génération en génération. Le péché des pères devient le péché des fils. Cela pourrait être pourquoi ils ont éliminé toute la famille ici, pour éliminer cette possibilité, mais toute la famille a été exécutée. Ensuite, il y a ce mémorial de Pierre. C'est le deuxième dont nous avons connaissance. Il y en a eu un dans Josué 4, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour célébrer les bontés, la puissance, la grâce de l'Éternel. Ici, cependant, c'est pour marquer la colère de Dieu, son jugement. Donc, nous avons vu l'iniquité, la découverte et la punition. Que pouvons-nous glaner, apprendre de cette réflexion sur ce récit de Josué 7? Nous pouvons en retirer deux vérités simples et nous pouvons même dire qu'elles sont jumelles parce qu'elles sont quelque peu semblables. La première est que nous apprenons que Dieu est plus grand que nous pensons. En anglais, il y a le terme « greater and bigger ». Alors, c'est comme si on voit dans l'immensité et dans la grosseur. Nous apprenons donc que Dieu est plus grand que nous pensons. À tout le moins dans les choses qu'Acan pense. Combien grand est votre Dieu? Est-il à ce point grand comme cela? C'est toujours une question qui est pertinente, n'est-ce pas? Parce que nous avons tous tendance à rapetisser Dieu, à le mettre très, très petit. Un peu comme on fête la fête de Noël et on voit Jésus dans la crèche et on pense que Jésus, il est toujours dans la crèche, le petit enfant dépendant de ses parents, à la merci de tout le monde. Nous avons toujours tous tendance à rapetisser Dieu. Nous vivons dans un monde qui est et qui met constamment de la pression sur nous pour adorer un Dieu de notre imagination. Une preuve est le fait que nous sommes toujours coupables, à certains degrés, de faire de Dieu un petit Dieu. Dû au fait que nous péchons, que nous sommes des pécheurs. Nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Et non pas que nous sommes pécheurs parce que nous péchons. Lorsque vous péchez, vous nous dites ce que vous croyez réellement de Dieu, n'est-ce pas? Vous nous donnez votre théologie à un certain degré. Combien grand est votre Dieu? Croyez-vous que votre Dieu est si grand qu'il voit et qu'il sait tout? Est-ce que Acan a oublié cela? Ou qu'il ne croyait pas. Acan, est-ce que tu crois réellement que tu vas t'en sortir avec le péché? À quand crois-tu que tu peux cacher ces effets, le manteau, l'argent, les barres de lingots, et que Dieu ne verra pas, ne saura pas? Ne sais-tu pas qui est Dieu? Ne sais-tu pas que Dieu est omniprésent? Ne sais-tu pas que Dieu voit tout? Ne sais-tu pas ce que le psaume 139 nous enseigne concernant Dieu, entre autres? Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Et d'ailleurs, tout le psaume 139 revient sur ce thème. Si tu crois réellement cela, comment se fait-il que tu pèches comme tu l'as fait? Le psaume 139 est un texte biblique d'une grande richesse sur lequel nous pouvons méditer. Et il peut nous aider à lutter contre le péché et la tentation. Il nous donne une vue de Dieu exalté. Il nous laisse voir, il nous laisse savoir combien grand est Dieu. Qu'il est un Dieu qui voit tout, qui sait tout. Si vous auriez réellement pensé et médité sur cela cette semaine passée, auriez-vous péché de la façon dont vous avez péché? Auriez-vous agi de telle ou de telle façon, sachant que Dieu vous voit à ce moment précis? C'est une interrogation qui est pertinente, n'est-ce pas? Combien grand est votre Dieu? Saviez-vous que Dieu voit les mouvements, les agissements de tous? Et sait combien de fois vous avez cligné des yeux dans la dernière heure? Dieu connaît toutes vos pensées, vos habitudes, vos paroles. Combien de fois vous avez ouvert votre Bible? Combien de fois vous avez prié? Combien de péchés vous avez commis dans le secret? Aucune surprise. Il sait le comment, le où et le pourquoi. Il connaît toutes choses. Il a toutes les évidences de l'ADN, toutes les preuves pour prouver que vous êtes coupable. Que nous sommes coupables. Je me demande si Achan aurait pensé concernant Dieu et son omniscience et son omniprésence et son omnipotence, si cette histoire, cette triste histoire serait dans notre Bible. Mais nous pouvons oublier cela, n'est-ce pas? Le meilleur homme l'a fait. David, qui a écrit le psaume 139, il l'a oublié, n'est-ce pas? Il a joué le jeu du mensonge et de la déception. Il pensait qu'il s'en sortirait jusqu'à ce que le prophète du nom de Nathan le confronte et lui dise par une énigme, « Tu es l'homme. » On se rappellera de cela. On ne peut se moquer du Dieu de la Bible. Gardons-nous de le modeler, de le rapetisser à la stature d'un pygmée comme Achan l'a fait. Il peut voir dès maintenant et chaque jour de la semaine, chaque heure de chaque jour. Il est le Dieu omniscient, qui sait tout, qui voit tout. Notre deuxième réflexion jumelle, le péché est plus grand et plus gros que nous pensons. Greater and bigger. N'oublions pas combien grand est le péché. C'est une autre tendance perverse du cœur de chaque homme. Non seulement rapetissons-nous, diminuons-nous Dieu, mais nous tendons à minimiser et à banaliser le péché. Et nous inventons toutes sortes de manières ingénieuses, insidieuses pour le faire. Nous essayons, n'est-ce pas, d'éloigner quelques-unes des senteurs les plus vieilles et d'adoucir les coins ébréchés du péché. Nous nous convaincons nous-mêmes qu'il y a des catégories de petits et de gros péchés. Mais pouvez-vous me montrer cela dans la Bible? Nous nous convaincons nous-mêmes que c'est un péché personnel, privé, et que ce que je fais en privé, en secret, Ça me regarde, c'est mon affaire, c'est personnel, c'est dans ma bulle. Et que cela ne blesse personne d'autre. Mais est-ce que vous pouvez prouver cela dans la Bible? Exemple, voler le gouvernement, c'est une forme dont nous justifions et rationalisons le péché. Tromperie dans ma déclaration de revenus est de beaucoup plus facile de le justifier, n'est-ce pas, que de traverser la rue et de voler la tondeuse de mon voisin. Comment cela? Comment est-ce que nous rationalisons tout cela? Eh bien, nous le raisonnons par dire « le gouvernement est une institution impersonnelle ». Un gouvernement, c'est comme quelque chose qui est là puis qui n'est pas là. Donc, qui sera blessé si je ne leur dis pas tout? Ça va faire quoi à qui? Ou ça va faire qui à quoi? Est-ce que vous pensez qu'à quand penser ainsi? Pensez-vous qu'il disait « J'ai pris cela aux Cananéens. Ce sont les méchants et en plus, sont tous morts. Tous sont tous morts. » Qui va s'en préoccuper? À qui va manquer un manteau babylonien, quelques lingots d'or, un lingot d'or et des cycles d'argent? Peut-être a-t-il raisonné, « Eh bien, toutes ces 40 années dans le désert, j'ai souffert beaucoup, j'en ai été privé. » Pourquoi ne pourrais-je pas profiter des belles choses de la vie? Voici quelque chose qui pourrait aider ma famille. Je dois faire des placements financiers à long terme. Il y a toutes sortes de manières dont nous pouvons minimiser et rationaliser le péché. Josué 7 nous donne un rappel sensé, raisonnable, que le péché est sérieux. Ces 6 mots dont nous avons parlé brièvement nous disent que le péché est sérieux. Dieu cherche à marteler cette maison utilisant ces termes vilains, laids, pour nous rappeler combien le péché est sérieux, laid. De plus, nous voyons Dieu jugeant le péché. Il poursuit ce pécheur. Il ne le laissera pas s'en tirer parce que Dieu prend le péché au sérieux. Ensuite, voyez comment il juge non seulement Achan, mais toute sa famille. Je ne pense pas que quiconque qui se tenait là, qui ont vu cette famille lapidée et brûlée, penserait que le péché est quelque chose avec lequel je flirterais. Que ce n'est pas une si grosse affaire que cela, finalement. Pourquoi est-ce que le fait du passage, comme Josué 7, tend à nous mystifier, à nous intriguer, à nous rendre perplexes. Est-ce que Dieu apparaît être trop sévère? Mais Dieu, est-ce qu'il est trop sévère dans ça? C'est terrible, c'est affreux. Est-ce que cette pensée est venue à votre esprit? Vous saisissez le problème? Vous avez minimisé le péché. C'est ça le problème. 36 hommes sont morts. Toute une famille est brûlé, lapidé. Dieu, est-ce que tu devrais faire cela? Est-ce que tu es obligé de faire cela? Le péché est si douloureux, pénible, cruel, très grave et si destructeur que Dieu veut que nous le prenions au sérieux en parlant du péché. Dieu veut que nous prenions le péché au sérieux. Il ne doit pas avoir de doute. La plupart des gens ne le réalisent pas. Le péché doit être puni. Tout péché sera puni. Josué 7 ne nous donne pas réellement ce que nous pourrions dire. La pleine expression de la colère de Dieu. Ceci est minuscule comparé à ce qui est arrivé des milliers d'années plus tard à la croix, alors que nous sommes témoins de la sévérité de Dieu envers son propre Fils. Vous voulez comprendre combien Dieu prend le péché au sérieux? Je ne dirais pas aller à un endroit appelé Accor, la vallée d'Accor. Je dirais aller à l'endroit appelé le Calvaire. C'est là où vous voyez exploser la colère de Dieu sur le seul Fils bien-aimé de son amour, parce qu'il hait le péché et le prend au sérieux. La bonne nouvelle est que Dieu est aussi un Dieu de miséricorde, miséricorde abondante, infinie. Et c'est offert aux pécheurs parce que Jésus a absorbé, a pris sur lui, a fait propitiation, expiation, il a pris sur lui la colère de Dieu. Est-ce que Achan a goûté à la miséricorde? Eh bien, il l'a eu. Il a eu l'opportunité de se repentir. Si vous êtes assis ici ce matin, si vous n'êtes pas un chrétien, vous goûtez à la miséricorde de Dieu. Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir. C'est ça la miséricorde. Il n'est pas obligé de le faire, absolument pas. Je dirais, ne soyez pas comme Achan qui n'a pas pris avantage de l'opportunité. Vous avez une opportunité en or, ne soyez pas comme Achan qui, dans sa folie, il pensait qu'il pouvait pécher et s'en sortir. Il y a un jour du jugement à venir et Dieu apportera chacun à la barre du jugement. Et si vous êtes en dehors de Christ, vous serez puni. Si vous êtes caché en Christ, vous serez épargné. Tous ont péché et le doigt de Dieu pointe devant nous et dit « Vous êtes coupable, vous avez volé, vous avez menti, vous avez convoité. » Comment je peux échapper au jugement de Dieu? Il n'y a qu'une seule manière. Vous devez non pas vous cacher de Dieu, c'est ce qu'a fait Achan, mais vous devez vous cacher en Dieu. C'est-à-dire que vous devez vous cacher dans son Fils. Vous devez trouver Christ, Christ pour vous cacher. Et pour utiliser le langage de l'auteur du chant, l'auteur, c'est August Toplady, dans le hymne « Rock of Age » en anglais « Cleft for me », qui est traduit comme suit « Rock séculaire caché en moi ». Vous devez vous cacher en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, encore une fois, Seigneur, qui est parole d'esprit et de vérité, Seigneur, elle émane de toi. Seigneur, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as fait voir, la laideur du péché, le sérieux du péché, Seigneur, que nous devons combattre, Seigneur, constamment. Et nous, notre Dieu, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, avec tous les moyens de grâce que tu nous as accordés, Seigneur, accorde-nous de les prendre pour nous, Seigneur, et de combattre, Seigneur Dieu, ce péché, avec ces moyens que tu nous as accordés, Seigneur, la prière, Seigneur Dieu, la communion fraternelle, Seigneur, nos rencontres hebdomadaires, Seigneur, la lecture de ta parole, Seigneur, la méditation de ta parole, et Seigneur, rappelons-nous que nous avons accès au trône de la grâce constamment, Seigneur, parce que le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.